Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Un homme parfait pour une seule nuit. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Elle avait réservé leur table habituelle et le maître d'hôtel, qui les accueillit avec la prévenance due aux clients les plus fidèles, les escorta, plus qu'il ne les guida, vers l'angle de la salle où elle se situait. Après avoir retiré l'élégante pèlerine de Madame, sans oublier de dire à Madame tout le plaisir qu'il avait à revoir Madame, il prit le manteau de Monsieur, qu'il se contenta de saluer d'un signe de tête, puis il demanda, avec un sourire entendu, s'il prendrait le même apéritif que d'habitude. Ils acquiescèrent sans prononcer le moindre mot, avec sur leurs traits un mélange de familiarité et de distance, et ils s'assirent. Il attendit que le maître d'hôtel fût hors de portée de voix pour se pencher vers elle et murmurer « Comment s'appelle-t-il déjà ?»« Max. » Il hocha la tête d'un air approbateur. Prénom tout à fait adapté à ce genre de fonction dans ce genre d'endroit. Il observa un silence, puis, sans transition, affirma sur un ton détaché « Je suis sûr qu'il est un peu amoureux de toi. Tu dis ça de tous les hommes. » répondit-elle sur le même ton, mais quelque chose dans sa voix trahissait l'émotion qu'elle éprouvait lorsqu'il lui disait cela. « Non, rectifia-t-il, avec beaucoup de sérénité, un index tendu vers elle. Je dis ça de tous les serveurs qui travaillent dans les restaurants où tu m'invites. Je te soupçonne même d'en avoir fait un critère de choix. » Elle rit, d'un rire de gorge très délicat, qui rosit sa peau, au sommet des pommettes, et fit trembler sa gorge et son cou. « Voilà pourquoi j'aime tellement être avec lui, » songea-t-elle. Il trouve toujours les mots pour me faire rire. Max revint sur ses entrefaites et jeta sur elle, tandis qu'il la servait, un regard appuyé, lourd de sous-entendu. Elle faillit éclater de rire, mais sut se contenir. Elle avait toujours su cacher ce qu'elle éprouvait vraiment et, avec l'âge et l'expérience, ce don naturel était devenu une arme d'une puissance absolue. Max repartit, le dos noir et luisant de sa jaquette traça quelques éclairs sur les murs blanchis de la cave où le restaurant avait été aménagé, puis, une fois qu'il eut disparu, elle s'autorisa un sourire. « En plus, » murmura-t-elle, tandis qu'ils levaient leur coupe, « il a au moins 30 ans de moins que moi. » Leurs verres s'entrechoquèrent et un accord musical limpide s'éleva. Une fois que l'écho en fut éteint, il répondit « Cela ne change rien à l'affaire, et tu le sais. Je te l'ai expliqué souvent. Chez certaines personnes, le charme ne se dilue pas dans l'âge, et tu fais partie de ces personnes. » À nouveau, elle fut traversée par une onde de chaleur et, à nouveau, elle retrouva, intact, le plaisir qu'elle avait à le revoir. Ils burent plusieurs gorgées de champagne, les yeux mi-clos, égarée dans la brume légère que répandait leur griserie naissante, puis elle lui demanda « Tu sais pourquoi nous sommes là ?»« Pas du tout », répondit-il avec cette candeur et cette franchise désarmante, souvent brutale, qui l'avait parfois rendue folle de chagrin. « Eh bien, » poursuivit-elle, « c'est notre 1001e nuit. » Il leva vers elle des yeux remplis de surprise, ce qui était rare chez lui, qui s'accommodait sans peine et sans peur de tous les hasards, bons ou mauvais, de l'existence. Elle éprouva une satisfaction vaguement perverse à le voir ainsi hésiter et tanguer. Mais, après qu'il eut baissé les yeux pour chercher une réponse, dans le balai finissant des bulles de champagne, il retrouva son assurance habituelle, posa son verre et répéta, songeur, « 1001 nuits ». Tu tiens le compte de nos rencontres? Depuis quand? Depuis le début? Oui. J'écris un journal, et chaque fois que je fais l'amour avec un homme, je trace, dans la marge du jour concerné, un dessin. Pour toi, il s'agit d'une étoile. Une étoile bleue. elle lut sur les traits de son compagnon l'expression d'une multitude de sentiments, de l'étonnement, une fois encore. Mais, cette fois, il ne chercha pas à le dissimuler. Et à cet étonnement se mêlait de la nostalgie, une touche de vanité masculine, l'ombre d'un désir physique naissant et, enfin, de la tendresse, laquelle, très vite, balaya tout le reste et demeura seule imprimée sur son visage.
De velours de ton lit, quand j'oublie jusqu'à notre amour, lourd ensemble, lourd des bras qui m'entourent déjà. Bateau pas s'en va quelque part, les gens se séparent, j'oublie t'as autre part dans un bar d'acajou. Des violons nous rejouent notre mélodie, mais j'oublie. On sépare dans un joue contre joue, tout devient floué, j'oublie. Rebours d'une nuit, quand j'oublie jusqu'à notre amour, court le temps semble court, tes doigts qui parcourent ma ligne de vie. Sans un regard, les amants s'égarent sur un quai de gare. J'oublie.
Il prit sa main, souleva la dentelle qui cachait son poignet et déposa un baiser sur sa peau nue. Elle frissonna. « Mille et une nuits, » répéta-t-il, pour lui-même cette fois, d'un air si sérieux, si concentré, qu'il semblait refaire le compte, en pensée, de tous ces moments partagés, de toutes ces heures essaimées dans le temps. Ces mots semblaient agir sur lui comme un sortilège. Il resta muet un long moment, puis reprit. Au tout début, jamais je n'aurais imaginé que cela serait un jour possible. Elle sourit. Au tout début, songea-t-elle, à 18 ans. Il avait été le premier, celui avec qui elle avait sauté le pas, selon l'expression même de sa mère, laquelle lui avait prodigué de nombreux conseils sur le sujet. Elle n'en avait écouté aucun, et, selon ses principes, s'était fiée à son bon sens et à ses intuitions. Elle ne voulait pas s'encombrer d'un amoureux envahissant, ni d'un cœur d'artichaut, ni d'un macho. Par ailleurs, déjà, à cette époque-là, elle n'avait que l'embarras du choix, et elle voulait qu'il soit plutôt beau, plutôt sportif et plutôt amusant. Dans leur classe de terminale commune, il faisait partie de ceux-là, de ceux qui répondaient à ses critères, et elle avait fini par jeter son dévolu sur lui, car elle trouvait qu'il avait de jolies mains. Sans qu'elle puisse expliquer pourquoi, elle ne pouvait supporter l'idée d'être caressée par des mains qu'elle ne trouvait pas belles. En plus, il se dégageait du corps de ce garçon une odeur de frangipane. Oui, de frangipane, ce qui, tout à la fois, l'étonnait et la troublait. Lui, il se laissa amadouer sans résistance, sans se poser de questions et sans lui poser de questions, avec cette fatuité propre aux jeunes hommes séduisants qui croient que tout leur est dû. Après cette première expérience, ce saut du pas, elle constata, moitié surprise, moitié ravie, qu'elle ne s'était pas trompée. Il avait été prévenant, délicat, doux et enjoué. Ses mains avaient tenu toutes leurs promesses et, au matin, son corps embaumait toujours la frangipane, preuve que cela ne venait pas de son parfum. Dans son journal, elle apposa une étoile bleue et décida qu'elle dédierait ainsi, au fil du temps, un symbole à chacun de ses amants. Sans l'écrire, grisée par cette première nuit, elle espéra qu'il y en aurait beaucoup d'autres. Pendant l'été qui suivit, ils se revirent assez souvent, et elle vit son plaisir s'affirmer et mûrir. Elle eut l'intelligence de prendre conscience de la chance qu'elle avait. Il faisait l'amour avec une sorte de talent naturel, sans affectation, sans lourdeur, sans transformer leurs étreintes en prouesses acrobatiques ou en courses de fond. Quand il se retirait, son corps de jeune femme vibrait de surprise et de plénitude. Pourtant, très vite, dès le début en fait, elle sut qu'elle ne vivrait jamais avec lui, et l'idée qu'il était l'homme parfait pour une nuit, voire pour des nuits éparses, et s'aimer dans le temps, mais pas pour une vie, s'imposa à elle comme une évidence. Il était trop dilettante, trop nonchalant, trop léger. On n'épouse pas une bulle de champagne, avait-elle conclu, et elle en avait conçu un certain regret. Quant à lui, il ne se préoccupait pas plus de l'avenir que du passé, et, tout entier plongé dans le présent, il ne songea même pas à se marier avec elle. Et voilà qu'ils en étaient à mille et une nuits, des nuits glissées comme de soyeuses et scintillantes perles sur le fil de 40 années, parfois regroupées, parfois espacées par des mois, des années, mais ils les avaient toutes vécues, l'une après l'autre, dans un mélange de tendresse et d'harmonie physique. Elle s'était mariée deux fois, une fois par amour, une fois par raison. Bien sûr, seul ce second mariage avait résisté à l'usure des jours. Lui, il avait vécu avec plusieurs femmes, sans vraiment choisir, ni décider. Il avait eu une fille et, à sa plus grande surprise, il avait été un bon père, attentionné, drôle et joyeusement laxiste. Un silence flotta autour d'eux, chacun glissant sur l'aile de ses propres souvenirs, quand elle crut lire, chez lui, une expression désemparée. « Tu es triste ?» s'enquit-elle avec une pointe de sollicitude sororale dans la voix. Un maigre sourire, un sourire de Claude malheureux, tordit sa bouche. « Non, répondit-il, mais j'aurais aimé te donner plus que des nuits. » Nous savons tous les deux que tu ne pouvais pas donner plus. Oublions ça. Tu as mis du désir, du piment dans mon existence. Grâce à toi, j'ai le sentiment d'avoir vécu deux vies. D'un côté, une vie simple, ordinaire, avec juste ce qu'il faut de ruptures et de drames minuscules. Et puis, avec toi, une vie clandestine, dangereuse, excitante, pleine de surprises et d'attentes.
Il y a au centre-ville de l'eau qui coule au bord des rues et qu'on balaye au jour levé. J'irai du pas tranquille de ceux qui ne sont jamais revenus et qui n'ont rien à regretter. Parce que tu vois, bien sûr, tu ne m'as pas dit de te suivre. Et là, je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir dans ton sourire quand tu dors. J'ai le souvenir d'un grand bateau blanc sur la mer de ton corps. Mais je ne pense pas que j'étais fait pour vivre. Il y a vers la presqu'île des barques qui s'en vont le soir, vers où nous ne serons jamais allés. Les adieux difficiles de ceux qu'on ne va jamais revoir laissent tant de choses à oublier. Parce que tu vois, bien sûr, tu ne m'as pas dit de te suivre. Et là, je suis d'accord. Il y a tellement de choses à voir dans ton sourire quand tu le souvenir d'un grand bateau blanc sur la mer de ton corps. Mais je ne pense pas que j'étais fait pour vivre à son bord. À son
Des souvenirs remontèrent à leur mémoire. Elle pensa à ces deux années où son travail à lui l'amenait à Paris plusieurs jours par semaine. Ils se retrouvaient alors pour de brefs et voluptueux rendez-vous. À cette époque-là, chacun d'eux était marié, mais ni l'un ni l'autre n'éprouvait le moindre remords. Ils avaient alors 30 ans et leur corps, docile désormais, encore rempli de la sève de la jeunesse et déjà enrichi par l'expérience, se liait dans des étreintes qu'elle comparait, maintenant, au jeu des vagues sur le sable des plages, soutenu, rythmé, sans cesse différent, sans cesse renouvelé. Aucun autre homme n'était ainsi capable de respecter, dans l'amour, ce rythme de l'arghetto, de valse triste, qui lui plaisait tant. Lui, il gardait un souvenir impérieux d'une rencontre à Londres, tout entière due au hasard. Il était venu là avec sa famille, pour quelques jours de vacances, et elle, elle avait suivi son mari en voyage d'affaires pour sa banque dans la City. Ils avaient échafaudé un plan délirant, plein de risques et d'incertitudes, et ils avaient fini par se retrouver dans les toilettes d'âme des salles de gym de l'hôtel où elle résidait pour une étreinte qui avait duré moins d'une minute, mais dont l'intensité avait été si forte que Big Ben, aimait-il à dire, avait tremblé sur ses bases. Ils se regardèrent et se sourirent, évitant de se poser la question la plus bête du monde. « À quoi penses-tu ?» laissant ainsi leurs pensées et leurs rêveries flotter, ondoyantes et légères. Sans qu'ils eussent besoin de se le dire, ils s'étaient dès le départ accordé le droit de laisser leurs esprits vagabonder ramper. Quelque chose, presque rien, la ramena sur terre. Elle l'observa, sans le juger, et remarqua la fatigue et l'inquiétude qui, au coin de ses yeux, dessinait une expression mélancolique. « Où vis-tu en ce moment ?» demanda-t-elle. « Chez ma fille, » répondit-il, un peu gêné. « Je m'occupe de sa comptabilité, de sa gestion. Je me rends utile. Mon gendre me tolère et mes petits-enfants m'aiment bien. Mais ce n'est que temporaire. » Toujours fauché, donc. Il leva la paume de ses mains vers la voûte de briques du restaurant, haussa un peu les épaules et arbora une moue d'impuissance. « Toujours fauché, » confirma-t-il. Fataliste, l'argent s'échappe aussi facilement de mon compte en banque que l'air s'échappe de mes poumons. Et mon second divorce m'a mis sur la paille pour longtemps. Mais ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Bien sûr, affirma-t-il avec conviction, incapable de saisir la nuance de tendre ironie dont elle avait voilé ses questions. Bien sûr. Et toi? Oh, moi. Elle laissa sa réponse en suspens pour ne pas le blesser, et l'idée qu'il était l'homme parfait pour une seule nuit, mais en aucun cas pour une vie entière, revint, vive et claire, dans son esprit. Même si elle admettait, avec franchise, qu'il existait des couples qui savaient concilier, même pour de courtes années, désirs physiques, sécurité matérielle et projets familiaux, elle devait constater qu'elle s'était toujours obstinée à tout cloisonner dans sa vie. À ses maris, elle avait donné son corps sans désir, mais sans mensonge. Peut-être s'était-elle abandonnée, deux ou trois fois, à des actes plus audacieux que de brefs coïts, mais elle ne s'en souvenait pas, et cela l'arrangeait. À lui, à cet homme qui se tenait face à elle, et qui commençait à déguster, avec une expression de profond hédonisme dans les yeux, une gorgée de gigondasse, à cet homme-là, elle avait tout donné, tout, sans retenue, dans un abandon presque animal. Tout cela était venu peu à peu, étreinte après étreinte, dans le huis clos de leurs désirs respectifs. Un abandon, puis un autre. Une surprise, puis une autre. Un périmètre de peau inconnu devenait un continent à découvrir et les entraînait dans de savantes et minutieuses explorations. Leur plaisir pouvait venir de n'importe où, de leur bouche, de leurs yeux, de leur parfum, de leurs cheveux. Quand ils se retrouvaient, ils s'abandonnaient l'un à l'autre comme les marins s'abandonnent à leur bateau et au vent des quatre horizons. Y avait-il une fois, une seule, où ils s'étaient ennuyés? Une fois qu'il y avait tant ressemblé à une autre qu'ils avaient eu le sentiment de retrouver le lit conjugal. Elle lui posa ses questions, droit dans les yeux, et droit dans les yeux, il murmura « Non, pas une fois, jamais, pas une seule fois. » Il devina aussitôt le trouble dans lequel il la plongeait et ajouta « Je sais depuis longtemps que tu n'as pas besoin de me toucher pour me faire l'amour. Tu bats des cils et je frissonne. Une sorte d'effet papillon, donc. Oui, un effet papillon étendu au royaume du plaisir. » Elle battit des cils, et il saisit sa main, puis l'un d'eux soupira, elle ou lui, ou les deux en même temps. « Mon Dieu, comme Max est lent ce soir !» Plus tard, dans le taxi qui les ramenait vers leur hôtel, elle s'étonna du silence de la voiture. Il lui sembla qu'il flottait sur un tapis volant, et elle repensa à leurs mille et une nuits avant de lui demander Tu te souviens de la promesse que tu m'as faite un jour ? Il se redressa, un peu inquiet. Une promesse ? Répéta-t-il. À quel sujet ? La frangipane. La frangipane. Il arborait une expression de surprise si sincère qu'elle éclata de rire. Elle adorait le voir désarmé et lui semblait lire entre les signes un délicieux présage. « Oui, un jour, tu m'as promis de me dire d'où venait ce parfum de frangipane qui ne te quitte pas. » Il respira, rassuré. « Mais voyons, murmura-t-il, comment pourrais-je le savoir ? Mais tu as bien une explication ? Non, aucune, vraiment. Et tu es la seule à jamais me l'avoir dit. Alors, peut-être bien que je rêve tout éveillé. Peut-être que je vis dans un rêve depuis très, très longtemps. » Peut-être que tu n'existes pas. D'une main souple et adroite, elle défit deux boutons de la chemise qu'il portait et laissa ses doigts errer sur sa poitrine. Quand elle les retira, elle les porta à ses narines et huma, une expression de langueur sur le visage, le parfum qui s'en dégageait. « Non, je ne rêve pas, » conclut-elle, la voix un peu rauque. À son tour, il tendit sa main vers elle et caressa ses seins à travers la dentelle de son caraco. Aussitôt, ses tétons fleurirent comme deux boutons de fleurs. Ils surent alors, l'un et l'autre, que les dieux étaient une fois encore venus au rendez-vous et les escortaient, silencieux et discrets, vers les arches dorées de leur désir, comme ils les avaient, mille fois déjà, escortés sur le même chemin. »